Bon, ben on commence.
On y va.
Alors, petite histoire au départ, c'est lorsque Marie-Laure et Corinne m'ont demandé d'animer cette rencontre. Je dois préciser que je ne vous connaissais que par les papous dans la tête. Et on m'a dit, ce livre, il est non pas fait pour toi, mais dedans, il y a de la poésie, des poèmes, de l'histoire, il y a du cinéma, donc tu devrais t'y retrouver. Et je dois dire que je m'y suis retrouvé, et en préalable, je dois dire très sincèrement que c'est un livre qui m'a infiniment plu. Donc j'espère que ça transparaîtra à travers les bien modestes questions, même si c'est surtout à vous que je vais donner la parole. Donc l'histoire-poème... C'est 227 poèmes qui ont, qui puisent leur inspiration dans l'histoire, mais également qui utilisent un petit peu l'histoire des formes poétiques pour illustrer cette inspiration. Et puis c'est aussi un livre. Moi, j'ai le sentiment que à travers les faits, les événements de l'histoire, qui dit certaines positions sur le monde. Ça, on aura sans doute l'occasion d'en reparler. Donc, c'est un livre qui est donc 227 poèmes. En fait, c'est peut-être dans le dernier poème que l'on trouve l'histoire de la genèse de ce livre et puis un petit peu le parti pris qui est le sien. Alors je me suis évidemment préparé mes petites choses. Et dans ce dernier poème, il est dit de manière très claire: mon sujet, cependant, aura été autant le poème que l'histoire. Que dis-je, le poème, les poèmes seraient préférables, je ne lis pas très bien, ainsi que l'histoire des poèmes et de leur manière. Si bien que c'est enfin dit que le titre, comme le livre lui-même, finira par la lettre du doute, selon Bernard Cerquilini, je ne sais pas comment on prononce, une S. Et c'est dans ce dernier poème que l'on trouve la genèse du livre. C'est un livre qui se divise, alors je ne suis pas un spécialiste, mais en trois parties. Hein, il y a on commence par le retour plutôt que l'aller. Au milieu, on a une partie qui s'appelle « Des langues » et qui est fait d'un seul et même poème découpé en plusieurs poèmes. Et en fait, et on conclut par une centaine de poèmes sur « L'aller ». Voilà. Autour de cela, il y a donc l'utilisation de toutes ces formes poétiques auxquelles vous êtes, j'imagine, particulièrement sensible. Alors, on retrouve la sextine, on retrouve le sonnet, beaucoup. On retrouve le vers libre, qui, comme vous le dites dans le petit entretien que vous donnez sur le site de POL, est une forme déjà ancienne, hein, de la poésie traditionnelle. Mais on retrouve tout un tas d'autres formes poétiques. C'est aussi un livre qui est basé sur des sources. Ces sources, elles sont mises pour partie en rez-de-chaussée. C'est vous qui utilisez cette expression de chaque poème.
C'est une expression de la presse. Hein. C'est dans le bas de la page.
J'ignorais.
Le bas de la page du journal papier. Voilà. Ça s'appelait le rez-de-chaussée.
Alors, il y est question de la Seconde Guerre mondiale, notamment. Donc, vous pouvez rester, mais ça ne sera pas Pierre. Il n'est pas question de Pierre Brossolette. Je vous en prie.
Non,
au contraire, on a un petit moment de rire, d'ailleurs, est un clin d'œil, puisqu'on pourra aussi parler du rire.
Maintenant, nous allons parler de Pierre Brossolette.
Voilà.
Maintenant, que nous sommes entre nous.
Et bon, question, pourquoi vous n'avez pas consacré un poème à Pierre Brossolette?
Mais dans le prochain volume, il y aura un poème sur Pierre Brossolette.
Bon, voilà. Voilà, bon, j'ai fait une petite introduction, donc on pourrait peut-être commencer par une question assez simplette, mais comment donc vous avez construit ce livre par rapport aux éléments que j'ai pu plus ou moins bien formuler?
Depuis que j'écris de la poésie de façon sérieuse, c'est-à-dire depuis à peu près une trentaine d'années, j'ai toujours essayé d'aller plutôt chercher du côté des peintres plutôt que du côté des poètes, comment écrire des poèmes. C'est pour ça que je me suis intéressé aux paysages, je me suis intéressé aux portraits, je me suis intéressé à la nature morte. Donc j'ai fait des poèmes de nature morte, des poèmes de paysages, des poèmes de portraits, beaucoup. Et en faisant la liste de ce que faisaient les peintres, la catégorie suivante, c'était ce qu'on appelle dans l'histoire de l'art la peinture d'histoire. C'est-à-dire une peinture qui représente la bataille d'Austerlitz, l'assassinat de Jean-Paul Marat par, comment s'appelle-t-elle déjà ?
Charlotte Corday.
Charlotte Corday, merci. la mort de Pierre Brossolette, torturé par les nazis. Enfin, voilà. Donc, comment les peintres se posent la question, comment faire une peinture sur un événement historique? Donc, moi, je me suis posé la question, comment faire un poème sur un événement historique? Je ne suis pas le premier, il y en a eu bien d'autres, évidemment, avant moi. Mais enfin, dans la poésie, en particulier en France, depuis Baudelaire, on ne peut pas dire que ce soit une activité extrêmement répandue. Ce qui m'intéressait aussi, de revenir à une poésie d'histoire, comme celle que j'aime beaucoup, par exemple chez Victor Hugo, Châtiment, La légende des siècles, L'année terrible, qui sont pour moi de très grands livres de poésie, et qui sont des poèmes qui s'affrontent à l'événement historique.
Alors, sur les formes, peut-être qu'on peut dire un petit mot sur les formes, parce que c'est important, surtout pour un oulipien. Alors, il y a une façon moderne de traiter des formes classiques. D'ailleurs, vous parlez de la sextine aussi, qui paraît-il, vous pouvez expliquer en un quart d'heure sur un tableau noir. C'est pas très compliqué, mais il n'y a pas de tableau noir. Oui. On retrouve beaucoup de sonnets. On retrouve le chant royal. Pour ceux qui ont lu Mansiette, il y a un poème de Mansiette qui s'appelle Le chant royal, qui avait été publié il y a longtemps. Bon, toutes ces formes poétiques répondent à des contraintes extrêmement précises. Et ce qui est intéressant, c'est de faire rentrer l'histoire dans cette contrainte, et de la faire vivre et de faire de la langue une matière extrêmement vivante en s'inspirant aussi bien de l'histoire que de formes poétiques dites traditionnelles qui en fait peuvent être parfaitement modernes.
Oui, j'avais envie de... Puisque ce livre de poèmes devait être consacré à des événements historiques référencés, j'avais envie aussi de balayer l'histoire de la poésie. Mais alors, balayer l'histoire de la poésie avec un a priori qui serait ce que vous dites, c'est-à-dire les formes, même si elles sont antédiluviennes, passées, vieilles, ne sont pas forcément obsolètes. Dans mon idée, aucune forme utilisée par les poètes dans le passé n'est dépassée. Chaque forme, potentiellement, peut trouver son lieu d'actualité. Par exemple, la sextine est une forme dont la première apparition est au XIIe siècle en Provence, enfin en langue provençale, et finalement, elle a toujours existé de façon minoritaire, c'est-à-dire que les gens ont fait un petit peu Dante, Pétrarque, on a fait. Ensuite, c'est venu en France à la faveur de traductions. Ensuite, ça a disparu. Ensuite, c'est réapparu aux États-Unis. Ensuite, c'est revenu en France au XXe siècle. Donc voilà, c'est une forme qui est ancienne, qui est vraiment de vieille mémoire et qui peut trouver son actualité. Alors, c'est pas parce que c'est une forme du XIIe siècle que je vais l'utiliser pour traiter un événement qui s'est passé au XIIe siècle. Je peux l'utiliser pour un événement récent, pour Pierre Brossolette, par exemple. Pourquoi pas. Donc, les temps ne sont pas... Les temps des formes du poème et les temps de l'événement ne sont pas en conformité, ça bouge. Et c'est pas la même temporalité. L'histoire du monde, des populations, des guerres, des grands hommes, des petits hommes, c'est pas le même temps que le temps des formes poétiques. Ça, c'est quelque chose que j'avais envie de mettre, de traiter clairement dans le livre.
Voilà. Alors, vous avez un récapitulatif de toutes les formes utilisées et elles sont nombreuses. Après l'index, juste après l'index, vous avez. Alors, parmi ces formes, il y en a une qui m'a infiniment plu, mais j'imagine, mais je peux me tromper, c'est le poème de Bandy.
Ça, c'est tout neuf. Enfin, voilà. C'est relativement.
Et j'ai adoré cette définition du poème de Bandy. Forme de ce poème, j'écris de temps à autre des poèmes de Bandy. Un poème de Bandy est un poème volé à la prose. Voilà, je pense que c'est une. Très jolie définition. Et justement, vous illustrez un des deux poèmes de Bandy. Il y en a un qui est très, très beau, qui est consacré à Carl Linné.
Non.
Si ?
Non. Non, il y a trois poèmes de Bandy, mais
61, je me suis trompé.
Celui de Linné n'est pas un poème de Bandy, non.
Non, c'est Audebert et Tonine, voilà. Et la poésie, poème de Bandy. C'est le premier qui apparaît avec la définition en bas.
Oui, c'est ça.
C'est mon côté, comme je m'occupe de biodiversité, j'ai été aveuglé par ma profession, c'est pas bien. J'en suis assez confus. Voilà, donc Audebert et Tonine et la poésie, poème de Bandy. Alors, voilà. Parlez-nous un peu.
Bah, je vais vous le lire. Voilà. Je vous le lis, puis après, je vous dis comment il est fait. Audebert avait méconnu sa véritable aptitude. Il était poète. Les mots lui venaient en abondance. Et sous ces mots, il y avait de la peinture et de la vie. Il avait le sens de l'observation idéalisée et son attendrissement était facilement provoqué par les petits drames de la vie ouvrière. Son erreur était d'avoir cru pouvoir aborder sans culture et dans un âge trop avancé les abstractions et les calculs de l'économie sociale. C'est par hasard que dans une petite reprise de fièvre, il se mit à parler en vers à Tonine. Les vers n'étaient pas corrects. Tonine ne s'en aperçut pas beaucoup, il chantait quand même à l'oreille et plaisait à l'esprit, les images étaient vives et les sentiments tendres et vrais. Quand l'accès fut passé, Tonine lui demanda s'il n'avait pas fait quelquefois des chansons. « Oui, quelquefois, pour m'amuser, répondit-il, mais je ne les ai jamais montrées. J'aurais eu honte de m'avouer poète. Y a-t-il rien de plus méprisable qu'un poète ? C'est une voix pleurarde qui raconte la peine sans jamais trouver le remède. » Alors, le poème est volé à un roman de George Sand, une page de George Sand dans un roman qui s'intitule « La ville noire ». La ville noire, c'est Thiers, la ville où on fabrique encore des couteaux. Et voilà, c'est une sorte de Germinal, quelques années avant Germinal, et qui raconte la vie ouvrière dans cette ville. Donc, ces deux personnages, il y a cette histoire autour de la poésie qui m'a beaucoup, beaucoup frappé. Donc je prélève ce morceau de prose dans le roman de George Sand et j'en fais un poème, simplement par l'organisation des vers. Voilà. Donc vous voyez, c'est un... Oui ?
Est-ce que quand on fabrique un poème de bandit, on est obligé de donner ses sources ? Ou est-ce que c'est facultatif ?
Moi, je les donne toujours. Et en plus, dans ce livre... Ça, après, on fait ce qu'on veut. Il y a des bandits plus ou moins graves. Il y a des bandits qui suivent le précepte de je ne sais plus quel anarchiste n'avoue jamais. Et moi, non, au contraire, j'avoue toujours. Donc dans mes poèmes de bandits, c'est dit. Parce que je trouve que c'est intéressant que dans un deuxième temps, justement, on ait le... Il y a comme un arrière-plan du poème qui est sa source. Et ça, je trouve ça important. De même que dans tous les poèmes qui sont là, chacun des poèmes est au bout d'une lecture, c'est-à-dire qu'il y a au moins un livre qui est sous le poème, que j'ai lu de la première ligne à la dernière. Et ça, je le dis, c'est-à-dire que je n'ai pas une suffisamment grande confiance dans la scientificité de l'histoire pour penser que je puisse donner un avis sur un événement historique sans donner des sources, qui sont de toute façon partielles et partiales.
Je vais revenir sur les sources tout à l'heure, hein, si voilà, parce que ça. C'est, mais allez-y quand même, je ne veux pas vous empêcher. Non, allez-y, allez-y.
Cette question-là, j'avais présent à la mémoire la vie mode d'emploi de Pérec, qui est truffé de citations, sans jamais qu'il les cite, sans jamais qu'il les atteste. Voilà, c'était le fond de ma question.
Oui, c'est de ce point de vue-là, c'est totalement, enfin, l'approche est totalement différente.
Alors en fait, le poème de Carl Linné, c'était une autre forme poétique. C'est la morale élémentaire et, par parenthèse, tronquée. Voilà, dites-moi quelques mots de la morale.
La morale élémentaire était une forme qui est d'invention récente, puisque c'est Raymond Queneau qui l'a inventée dans les années 70, peu avant sa mort. C'est le dernier livre de Raymond Queneau, s'intitule « Morale élémentaire ». Et les 60 premiers poèmes du livre sont écrits selon... La même forme fixe qu'il a mise au point, voilà, et qui notamment joue beaucoup sur la séquence non-adjectif. Porte ouverte, ciel clair, soleil brûlant. Voilà, tout le poème s'organise de cette façon-là, pour l'essentiel. Enfin, c'est un peu plus compliqué, mais pour l'essentiel. Et c'est une forme qu'on a reprise beaucoup à l'Oulipo depuis la mort de Queneau, en fait. Aussitôt qu'il a eu le dos tourné, les Oulipiens se sont précipités sur la forme pour la lui voler. Mais nous n'avons pas de scrupules.
Voilà. Et le sonnet est parfois utilisé avec une inspiration relativement contemporaine, et notamment il y a un sonnet qui s'appelle 10 avril 2002, fondation de l'UMP.
Ouais.
Comme quoi l'UMP, dans ses fondations, peut donner lieu à un sonnet. Je crois que c'est aussi le mérite de ce livre, de nous faire vivre le sonnet par référence à l'UMP.
Oui, c'est qu'il n'y a pas, de... Mon a priori aussi, c'est qu'il n'y a pas d'événement qui ne soit pas susceptible d'un poème. Donc voilà, quand on entre dans ce genre de projet, il y a quelque chose qui s'ouvre. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a de potentialité poétique dans un événement historique, politique récent, ou éventuellement à venir? Parce que dans la suite que je voudrais faire... je voudrais faire des poèmes sur une sorte d'histoire en aval. On parle toujours de l'histoire en amont, hein, mais est-ce qu'il y a peut-être une histoire en aval? Voilà. Donc, je voudrais que dans le prochain volume, si j'y arrive, la moitié des poèmes, ce soit des poèmes du futur, de l'histoire du futur. Alors, c'est assez risqué, mais...
Et le poème sur Drancy, là, dont vous parlez, qui serait aussi une suite possible?
Oui, ça, ce sera ce sera un poème assez long sur Drancy, oui.
Auquel vous consacrez un seul vers dans le livre.
Oui, pour le moment, mais là, ça va s'allonger un petit peu. Oui.
Alors, sur les sources, puisque ça s'appelle l'histoire-poème, alors les sources, en fait, elles sont assez nombreuses, donc j'ai essayé de les repérer à peu près toutes. Il y a des sources qui sont classiques pour un historien. Il y a les archives, délibérations du conseil municipal de Lorient, qui donnent lieu aux pantoums de bois, de pierre et de béton. On peut avoir un article de Libération, il s'était mis en position de sommeil. On peut avoir tout simplement comme source l'actualité, c'est un poème sur Israël. On peut avoir une photo, on peut avoir des souvenirs. Alors là, la source devient... la vôtre, bien que vous considériez que vous fassiez plus un livre d'histoire qu'un livre de mémoire, ou en tous les cas vous voulez traiter
les souvenirs. La source souvenir est quand même très très minoritaire par rapport au livre, mais c'est vrai, il y en
deux.
A,
ouais. Il y a les visites, il y a plusieurs visites qui sont aussi les sources du poème, donc toujours dans le rez-de-chaussée. Il y a des séjours comme à Royaumont. Il y a les souvenirs d'enfance avec un poème très beau sur Magellan, des rencontres,
hein, des conversations.
Voilà, c'est donc tous les poèmes autour du bassin créois, ma présence africaine, je le cite, mais bon, c'est pour montrer un petit peu comment s'établit ce travail. Parfois, il n'y a pas de source, puisqu'il y a marqué 100. Comment ça fonctionne quand vous n'avez pas de source, alors?
Bah, c'est peut-être les poèmes les moins... à la fois les moins documentés et les plus spontanés, comme ça. Une petite réaction.
Il y a les promenades. Il y en a une qui donne lieu à un petit poème en prose. Et puis, il y a en dessous, dans un rez-de-chaussée, il y a marqué « nombreuses ou innombrables » pour des poèmes sur les mois de la Révolution et « monostiques paysagers ». Voilà, donc on voit quand même que les sources qui sont proposées sont nombreuses. Et vous avez expliqué d'ailleurs tout à l'heure comment vous pouviez travailler, parce que ça paraît pas toujours évident. Vous, évidemment, vous êtes dedans par rapport à ce que vous disiez de George Sand. Et c'est vrai que la question me revenait souvent par rapport à tous ces poèmes. Chaque fois que vous citez des livres, tout ce travail de construction n'apparaît évidemment pas facilement pour celui qui n'est pas dans la fabrique du poème. Je crois que c'est une expression de Poincaré.
Oui, oui. Bah, après, le lecteur peut aller lire la source, aller acheter le livre. Il y a 227 poèmes, il y a peut-être 500 livres de sources. Voilà, ça augmente le marché le marché chez le libraire pour le lecteur. Mais bon, j'avais envie aussi de... Un jour, je me suis dit, il faut que je fasse un index. Alors ça, c'était la décision terrible, parce que je crois que j'ai passé, non pas plus de temps, mais presque plus de temps à faire l'index qu'à écrire tous les poèmes. C'est monstrueux de faire un index comme ça, parce que l'idée, c'est de faire un index des noms propres. Et dans un livre sur les événements historiques, il y a énormément de noms propres, noms de personnes, noms de lieux, éventuellement noms de concepts. Et donc ça m'a pris beaucoup de temps. En plus, c'était pas possible de le faire automatiquement, parce que maintenant, on fait les index automatiquement. Sauf que je voulais pas renvoyer au numéro de page, mais renvoyer au poème, au numéro de poème, ce qui était impossible à faire automatiquement. Enfin bon, c'était compliqué. Mais du coup, le lecteur peut très bien dire, mais tiens, j'ai les poèmes qui concernent la Chine, je vais lire les poèmes sur la Chine, ou qui parlent à un moment donné de la Chine. Et donc on peut aussi lire le livre par l'index de cette façon, en faisant des choix sur des personnages, ou sur des lieux, ou sur des villes, ou voilà. Ça m'intéresse, qu'il puisse y avoir une circulation dans le livre qui n'est pas forcément celle simplement de l'ordre des pages et de l'ordre des poèmes.
Et dans la construction du livre, là je fais une parenthèse, en fait, bon, moi je l'ai lu, on peut le lire comme on veut, hein, du poème 1 au poème 227. En fait, vous dites que bon, c'est pas parti du... Le poème 1 n'est pas le premier poème.
Écrit, non. Ce n'est pas l'ordre d'écriture.
Et après, comment vous avez un petit peu, et ça va me permettre après de développer un petit peu sur les sujets, comment vous l'avez organisé, le livre, par rapport à l'histoire?
Alors, quand j'ai commencé, je les ai mis en ordre chronologique, pendant très peu de temps, d'ailleurs. Et puis, un jour, j'ai lu un livre, une histoire de la Pologne, qui est d'ailleurs référencée dans l'un des poèmes. Et histoire de la Pologne de Norman Davies chez Fayard, si mes souvenirs sont bons. Un gros livre. Et ce livre est tout à fait extraordinaire parce qu'il raconte l'histoire de la Pologne à l'envers. C'est-à-dire, au lieu de vous savez, quand on achète un livre histoire du Portugal, histoire de la Russie, alors, il faut se payer la préhistoire, le Moyen-Âge et tout ça, et puis on arrive aux choses qui nous intéressent. Alors lui, compte tenu de ça, il fait exactement le contraire, c'est-à-dire qu'il part de la Pologne aujourd'hui, ensuite il y a un chapitre sur la Pologne aujourd'hui, ensuite un chapitre sur Solidarnosc, ensuite il y a un chapitre sur le communisme en Pologne depuis la guerre, ensuite un chapitre sur la guerre. Donc il remonte le temps, et j'ai trouvé la lecture d'histoire de la Pologne comme ça, avec une dynamique absolument vraiment extraordinaire. Alors à ce moment-là, je me suis mis à classer les poèmes que j'avais déjà faits en ordre chronologique inverse, en partant des choses les plus récentes, le sonnet sur la fondation de l'UMP, la nomination de l'UMP, et puis en remontant jusqu'à la préhistoire. Et puis quand j'ai eu fait cette première partie, je me suis dit oh, bah, je vais quand même remonter. À ce moment-là, la deuxième série, je l'ai classée en ordre chronologique aller. C'est pour ça qu'il y a première partie retour, deuxième partie aller. Et quand j'aurai continué, après le gros poème sur Drancy, je ferai aller, c'est-à-dire je partirai de la préhistoire jusqu'à aujourd'hui, et ensuite il y aura ce dont je vous parlais tout à l'heure, la partie future. Voilà. Donc c'est aussi un jeu sur la chronologie. Quand on s'intéresse à l'histoire, on ne commence pas par la préhistoire jusqu'à aujourd'hui. On pioche, on recule, on avance, on fait ce qu'on peut. De toute façon, c'est interminable, c'est impossible à maîtriser. C'est monstrueusement compliqué. Et c'est assez passionnant.
Mais on arrive à saisir, alors là c'est plus une lecture historique, enfin on voit bien qu'il y a des temps de l'histoire auxquels vous consacrez plus de poèmes que d'autres, même s'ils ne sont pas totalement rassemblés. Il y a la Seconde Guerre mondiale, ça qui apparaît de manière extrêmement forte. Alors c'est pas, je crois que l'un des premiers poèmes c'est sur les camps de concentration et c'est les Remplaçables de Dora, qui est un poème absolument superbe, sincèrement. Et il y a un très beau poème que j'aimerais bien que vous lisiez, c'est l'Antémère, que je trouve très très beau. Après, vous en direz peut-être...
L'Antémère. Vous avez le numéro, non?
Je retrouve dans ma longue préparation.
Je vais le retrouver, mais...
Je me suis mis des petites choses, mais je ne m'y retrouve pas parce qu'il y en a trop.
Voilà, je l'ai. C'est le 186. Bien sûr, ce ne fut pas ma mère. Mais s'il était possible d'être hanté par une hantée-mère, hantée bien sûr des plus heureusement, alors voilà ma branche-mère d'un siècle qui fut mauvais pour elle, mais pas maudit de tout essence, et qui ne finit pas l'histoire. C'est Nicole Veil, bientôt salon, et pour très peu de temps. 1,50 m, petit lutin aux cheveux d'or, comme dit son mari qui ne croit pas sa chance. Elle est parisienne et assistante sociale, avant d'être contrainte à être d'abord juive. Elle assumera. Elle travaille à l'OSÉ, œuvre de secours aux enfants, et fera son ouvrage au pire moment de la guerre en France, au Mille, à Rivesaltes, au centre de Megève, à Nice, quand des Italiens occupants pas trop antisémites sont remplacés par des Français occupés qui le sont davantage et mâchent le travail aux nazis qui se passent de commentaires. Il s'agit de faire passer en Suisse des enfants, faux papiers, faux prénoms, faux noms et vrais enfants, parfois fausses familles recomposées pour un passage. Réussite, obstination, arrestation, Drancy. À Auschwitz, elle choisit le côté des enfants qui n'étaient pas d'elle et qui étaient si peu utiles, juste bons pour la douche gazante. Alors, il se trouve que cette, la source, c'est un livre, Jacques Salon, « Trois mois dura notre bonheur », mémoire 1943-44. Mais il se trouve que l'un des membres de l'Oulipo, un ami, Olivier Salon, est le fils de Jacques Salon, donc du mari de la femme dont je parle. Mais cette femme n'était pas sa mère. C'est-à-dire qu'il est le fils de la deuxième femme de Jacques Salon. Donc c'est lui qui m'a parlé de cette femme que forcément il n'a pas connue. Et je me suis dit, ah oui, alors ça, voilà, là on peut inventer le concept d'anté-mère. Et à partir de là, j'avais le point de départ pour écrire le poème. La potentialité poétique de l'événement passait par une nomination. Anté-mère. Que serait une anté-mère ? On a tous une mère, mais est-ce qu'on a peut-être certains eu une anté-mère ? Évidemment, si elle n'était pas morte à Auschwitz, assassinée, peut-être que Olivier Salon, en tout cas, n'aurait pas eu son autre mère ou sa post-mère. Voilà, c'est le poème travaille autour de ça. Donc vous voyez, la source est à la fois historique et aussi personnelle, puisque. Il se trouve que c'est un ami qui m'a parlé de ça.
Alors, dans la Seconde Guerre mondiale, on ne va pas parler que de la Seconde Guerre mondiale, il y a aussi cette forme dont je n'ai pas parlé, qui est celle des petits poèmes en prose. Il y en a un que j'aime beaucoup, c'est celui sur la doucette des marais. Et vous pouvez nous en parler un petit peu, de la doucette des marais. C'est mon côté Carl Linné, ça.
Ça, c'est un poème que j'ai écrit... l'été dernier, dans le Cotentin. D'ailleurs, ça doit être un des derniers poèmes que j'ai écrit pour le livre. Et on était avec un groupe en train de se promener dans la campagne du Cotentin. Et on avait un guide qui nous expliquait des tas de choses sur des espèces, pas forcément rares, mais dont il connaissait très bien l'existence et l'histoire. Et puis, à un moment donné, tous les gens qui étaient présents se sont mis à écrire et à inventer une espèce. Donc, moi, j'ai inventé la doucette des marais. Voilà.
Mais la doucette des marais donne lieu à une petite histoire, quand même.
Ah bon ? Je ne sais plus.
Ah bon ? Mais lisez-nous la doucette des marais.
On va la lire, illustré. Alors. Alors, la doucette des marais, où est-ce qu'elle est ?
C'est page 341-190. Je vais respecter l'index.
La doucette des marais n'est pas comestible. Pardon. La doucette des marais n'est comestible que par son tubercule de la grosseur d'une dent minuscule. La doucette n'a qu'une tige, et au bout de cette tige, une seule feuille. Elle ne fleurit qu'une fois dans toute son existence. Il n'y a guère que la bruyère bleuâtre et la fausse ciguë ressuscitative qui consentent à vivre à ses côtés. Encore prennent-elles la précaution de ne pas se développer à moins d'un mètre de la première. Le crapaud polyglotte est friand du tubercule de la doucette des marais. Il fantasme sur le caractère parfaitement monoïste de la plante. Il loge le tubercule dans son sac vocal pour le diviser en quartiers qui donneront chacun une voix différente au moment de l'émission des cris. Il y a le cri de la faim, il y a le cri du sexe, il y a celui de l'angoisse, il y a le cri d'esthétique pure. Mon père passait des heures dans les marais à tenter de devenir crapaud polyglotte. Ma mère en larmes allait le rechercher en l'exhortant de garder un peu de temps aussi pour s'occuper de ses enfants. Mais mon père préférait de loin sa fêlure. Quand les Allemands l'ont ramassé après le débarquement, un Obersturmführer qui songeait à ouvrir un cabaret à Munich dès l'après-guerre le prit avec lui en lui donnant un uniforme qui n'avait plus de porteur. Les deux furent tués dans la poche de Colmar. Dans la poche de mon père, il y avait une bouture de Doucette des Marais. Elle existe à présent en Alsace et jusqu'en Forêt-Noire. Alors là, il n'y a rien de...
C'est une fiction. Hein.
C'est de la fiction pure. Non, de la fiction. Enfin, c'est vraisemblable.
Ah, bon, j'ai bien aimé la Doucette des Marais. Alors, pour la Seconde Guerre mondiale, il y a aussi sur Hiroshima. Il y a quand même plusieurs retours, si je puis dire, sur... sur Hiroshima. Donc on voit quand même qu'il y a, bon, dans l'histoire, il y a des moments qui vous marquent quand même fortement.
Il y a des moments qui marquent. Il y a aussi la commande. C'est-à-dire que j'ai travaillé sur ce livre pendant 4 ans. Et pendant ces 4 ans, ça, il m'est arrivé d'avoir ici et là des choses à faire, des commandes de poèmes. Par exemple, j'ai été invité à Lorient pendant 2 fois une semaine pour écrire des poèmes sur Lorient. Voilà. Alors à ce moment-là, quand je suis dans ce genre de situation, sachant que je suis dans l'écriture de l'histoire de poèmes, évidemment, je me suis dit, je vais sur Lorient, c'est une ville qui m'intéresse, qui a une histoire très intéressante. Grand port de la Compagnie des Indes. Donc voilà, là, il y a tout le travail de documentation que j'ai fait dans mon séjour à Lorient. Évidemment, il m'a servi pour le livre et il y a un certain nombre de poèmes qui en procèdent. Le poème sur Dora, dont vous parliez tout à l'heure, par exemple, c'était... il se trouve que François Le Lyonnais, qui est le véritable fondateur de l'Oulipo, qui était le grand compagnon de Raymond Queneau, a passé 8 mois de sa vie dans le camp de Dora en 1944 et 45 jusqu'à la fin du camp de Dora, et par bonheur il en est revenu, ce qui est assez exceptionnel déjà. Précisément avec Olivier Salon, dont je parlais tout à l'heure, on a décidé un jour d'aller faire un voyage à Dora pour voir, je dirais, le paysage actuel du camp de Dora. C'était très intéressant. C'est la seule fois de ma vie où j'ai visité un camp en Asie. Dora n'était pas un camp d'extermination, c'était un camp de travail. La nuance est assez faible parce que l'espérance de vie à Dora était de 4 mois, je crois, en moyenne. Et c'était un camp où les nazis fabriquaient les V1, V2 et... pas V3, parce qu'ils ne sont pas arrivés jusque-là par bonheur. Et donc, c'était vraiment en plein cœur de l'Allemagne, dans la montagne du Harz, qui était en plus, poétiquement, c'est aussi intéressant, parce que c'est la grande montagne du romantisme allemand. Hein, donc, c'est aussi une symbolique de la grande usine potentiellement victorieuse de l'Allemagne nazie, qui était là, dans le cœur du romantisme allemand, chose que François Le Lyonnais savait très bien. Donc il y a tout ça a donné un poème que j'ai fait extrêmement vite, d'ailleurs. On a fait ce voyage de 4-5 jours et j'ai fait le poème dans la semaine qui a suivi, enfin, vraiment de façon très rapide. C'était important pour moi de le faire comme ça.
Alors on retrouve un autre bloc d'ailleurs qui lui est quasiment chronologique autour de la Révolution. Il y a aussi pas mal de poèmes qui reviennent sur l'Afrique, sur la colonisation, qui est aussi quelque chose qui vous marque en tous les cas.
Il se trouve que depuis presque 20 ans, je vais chaque année travailler en Afrique au moins un mois ou deux, en Afrique de l'Ouest, donc plutôt francophone. Et alors évidemment, le fait de faire ça depuis 20 ans m'a bien sûr énormément marqué. Alors forcément, là aussi, il y a beaucoup de poèmes qui sont liés à l'histoire de l'Afrique, oui, bien sûr.
Alors il n'y a pas que des blocs historiques ou des moments d'histoire, il y a des choses un petit peu plus intimes, même si elles relèvent de l'histoire. Je pense à un des premiers poèmes qui est consacré à Nathalie Ménigon, hein, qui est un poème un petit peu, enfin un très beau poème là aussi. Il y a, on va retrouver aussi des on retrouve un portrait de Stravinsky par, au pluriel, portrait par Picasso, qui est aussi, j'aime beaucoup l'expression, les mains mentales. Une petite lecture sur le pour changer un petit peu, sur le c'est 49.
Vous voyez ce portrait de Stravinsky par Picasso, Stravinsky est assis dans un grand fauteuil, un portrait dessiné, une chose magnifique, une plus belle chose que je connaisse dans l'histoire du dessin, d'ailleurs c'est ce que j'essaie de dire. Après que Stravinsky, en 1917, connut à Rome Picasso, il rapporta en Suisse un portrait de lui dessiné par le crayon du maître. Fouillant ses bagages, les douaniers tessinois de Chiasso demandèrent à Stravinsky ce que ce dessin représentait. « C'est mon portrait. »« Ce n'est pas un portrait, c'est un plan, » dit le douanier. « Le plan de mon visage, pas autre chose, » dit Stravinsky. Stravinsky dut passer le dessin par la valise diplomatique. À Paris, le 24 mai 1920, Stravinsky eut de la chance avec le dessin. Picasso, qui ne dessinait pas avec la bouche, l'œil absolu, la main, sinon pour la couleur, du moins pour le trait, installa Stravinsky dans le fauteuil d'Éric Satie et de Manuel de Falla. C'était au moment de Pulcinella. Pour l'un des plus portraits de l'histoire du portrait, portrait de main, portrait de pantalon, portrait de fauteuil, portrait d'épaulette et de pochette folle, portrait de bouton de manchette, portrait de cravate et de poids de cravate, portrait de regard, le portrait des deux vers du lorgnon traitant la perspective à contresens, portrait de l'invention moderne qui avait fait le sacre et ne craignait pas aujourd'hui de s'occuper de pergolèse. Il est dit que Stravinsky méprisa ce dessin, l'un des plus dessins de l'histoire du dessin, en le traitant de caricature irrévérencieuse, chose difficile à croire qu'il n'eût pas reconnu ses mains mentales et les outils démesurés nez, gorge, oreille de toutes ses perceptions conceptuelles. Source, Pierre Cabanne, Le siècle de Picasso, Igor Stravinsky, Chronique de ma vie. Il semble bien que Stravinsky ait détesté ses portraits de Picasso, qui sont les plus magnifiques portraits qu'on puisse imaginer. C'est assez curieux.
Alors, on retrouve dans le livre d'autres musiciens. Il y en a un qui, a priori, vous touche pas mal. C'est Bach. Vous appréciez moins Luther, même s'il a permis à Bach de s'exprimer dans la langue allemande. Mais il y a Bach et il y a notamment une cantate municipale qui lui est consacrée. Dites-nous un petit mot sur cette...
Mais Luther était... Quand même, Luther était... aimait la musique.
Oui.
C'est pas Calvin. Calvin, c'était plus dur. Mais Luther était quelqu'un qui aimait la musique, et qui même a composé. Et je crois qu'on peut difficilement imaginer Bach sans Luther, précisément. Voilà, je ne sais pas, Bach.
Non. Si vous voulez. Moi non. Après, il y a aussi d'autres formes de disciplines artistiques qui apparaissent. Il y a le cinéma. Alors, comme on m'avait dit que ce livre me plairait, parce qu'en plus, il y a un clin d'œil à mon metteur en scène préféré dans Des Langues, qui est John Ford. voilà, DCN, 1964.
Est-ce que c'est vrai, alors, ce dont j'avais entendu parler?
Je ne sais pas, il faudrait que j'aille vérifier, parce que j'ai une grosse bibliothèque John Ford.
Parce que dans les Cheyennes de John Ford, il y a donc des Indiens qui sont embauchés dans le film et qui parlent en langue Cheyenne. Et alors, la légende, ou je ne sais pas si c'est une légende, veut que... Quand ils parlent en Cheyenne, ils disent le pique-pendre des Yankees. Enfin, ils se moquent des Yankees.
Bah, c'est dans le film, ces Yankees-là,
c'est tous des cons.
À part le beau Richard Widmark, c'est vrai qu'ils avaient de quoi se plaindre, puisqu'on les faisait retourner vers la réserve et non pas vers leur terre. Bon, enfin, je ne vais pas développer John Ford ici. C'est pas le... Alors, il y a aussi un très beau poème sur Charlie Chaplin. Et la cabane, là, je ne sais plus quelle est
La cabane de Black Larsen dans L'armée vers l'or.
L'armée vers l'or, voilà. Il y a un poème absolument superbe. Mais il y a aussi il y a des choses plus historiques. Alors je vais vite, mais vous retrouvez Jeanne d'Arc, mais vous pouvez aussi avoir un sujet plus social sur le taylorisme.
Intéressant, le taylorisme.
Ouais, le travail, le monde social est aussi, d'ailleurs on le retrouve dans les poèmes de la fin, quelque chose aussi qui importe manifestement dans votre... dans vos sources, si je puis dire.
Oui, bien sûr. Mais le... pour écrire le livre, je n'avais pas de méthode particulière, ni d'ambition de... comment dire, de couvrir, de tout couvrir ou de couvrir des choses essentielles. C'était pas ça. C'était un peu au hasard de mes lectures, de mes envies, de mes autres travaux. Voilà. Non, il y a des contraintes olympiennes dans l'exécution des poèmes, mais dans l'ensemble, non. Il n'y a pas de... Même les nombres, le fait qu'il y ait 227 poèmes, on m'a parfois posé la question. Moi, je ne suis pas rythmomaniaque, je ne suis pas mathématicien. Donc non, c'est comme ça. Ça aurait pu être 228, c'était pareil. Donc il n'y a pas de construction oulipienne. L'Oulipo arrive dans les formes. Voilà.
Il y a aussi un très beau poème sur Magellan, je crois que je l'ai dit, avec cette superbe fin. Un passage fut son meilleur titre, entre la terre et le feu et le continent, son métier, nommeur de Détroit. Voilà. Par contre, vous consacrez à deux événements. Alors, je vais commencer sur mai 68, je vous sens, pas de parti pris, réservé.
Oui, ben, je suis peut-être en tant qu'ancien. En tant qu'ancien combattant, oui.
Bon, et oui, mais alors pourquoi ? Quelles sont vos réserves ?
Non, les réserves, c'est le... Il faudrait que je le lise, le poème. Si vous lisez le poème sur mai 68 ?
Allez, alors, on va se rapprocher un peu du...
On en parle après.
Ouais.
Alors...
C'est 207.
Donc ça, c'était, par exemple, c'était le numéro du poème ou...
Ouais, je crois que c'est 207, oui.
Ça, par exemple, c'était une commande. Il y avait au moment de l'anniversaire de mai 68, c'était un éditeur qui voulait faire un livre sur mai 68. Donc, on m'avait demandé d'écrire sur mai 68. Alors j'en profite. Je me dis, j'aurais peut-être pas décidé de moi-même d'écrire un poème sur mai 68. Et là, c'était l'occasion ou jamais. Donc, là, il faut y aller en même temps, il faut y aller carrément. C'est-à-dire qu'il faut que la conviction d'écriture soit la même. Si commande il y a, pour moi, il faut que je trouve la même énergie. Sinon, ce n'est pas la peine. Donc, je n'ai jamais fait de choses à la commande. J'en ai fait beaucoup sans trouver vraiment la volonté de le faire, donc de ramener la commande à ce que j'ai profondément envie de faire. 2008. Du védétariat dans les dates impose les anniversaires. On n'est pas obligé d'aimer les anniversaires. Ni le védétariat. Toute ma vie, la fête m'aura rendu double, réjoui et sombre. 1968, c'était pas triste et n'était pas qu'une partie de plaisir. 1968, à Paris, la situation n'était pas au monde la plus pénible, au moment de la France prospère et bientôt doucement pompidolante. Mauriac disait « dulcipompienne ». Sur sa lancée, De Gaulle continuait d'illustrer le vers de Hugo. Il faut avoir le bruit quand on n'a pas le nombre. 1968, pour la première fois, il eut peur. 1968, là-bas, les Noirs assis dans les autocars sur les sièges des Blancs prenaient des coups. Les Blancs solidaires assis sur les sièges des Noirs aussi. Plus bas, les étudiants étaient tirés dans le dos à balles pour ne pas vouloir un avenir olympique. Plus haut, on brûlait des livrets militaires avec visa pour le Vietnam. À l'est, on avait de vrais chars de pays amis pour jouer avec à main nue. 1968. À Berlin, on prenait en pleine poire le boomerang de l'histoire. Les pères encore vivants avaient failli agripper à leur cocotier d'innocence que secouaient les fils et les filles, arrosés d'eau à la lance comme s'ils avaient le feu au cul, puisqu'ils avaient le feu au cul. 1968. Au loin, les décisions du timonier d'en haut devaient plier les rapports sociaux aussi facilement qu'une cocotte en papier représentant un tigre. Ce n'était pas une promenade de santé. 40 années plus tard, c'est encore tabou de trop vouloir en parler au loin. 1968, à Paris, je faisais connaissance avec le politique et le péremptoire et j'ignorais que ma police au monde n'était pas la plus dure. On prenait les chiens pour des loups. C'était le moment de grandir un peu, à défaut de partir ou mourir déjà, la réflexion est action. 1968, il y avait beaucoup de travail et de lecture à rattraper. 1968, au Liban, dans les conversations, on n'avait pas besoin de savoir au préalable qui est druze ou chiite ou chrétien maronite. 1968, père, patron, mandarin en prenaient pour leur grade, ils étaient sommés de remettre en jeu. Ce n'était ni bien ni mal, c'était les deux. Un petit matin, au hall, je prenais un petit déjeuner en terrasse, quand un chauffeur-livreur à son volant de chou me dit que j'étais un étudiant et qu'il allait me casser la gueule. 1968, on prévenait charitablement l'autorité de ses précarités et fragilités. Et j'entendis réprobateur en substance qu'il y avait beaucoup de savants dont la révolution n'avait pas besoin. Partout, il y avait des farces politiques. On ne voulait surtout pas du pouvoir étatique et de la nation. 2008, 40 années plus tard, il ramasse une des mises des 68ards, Sarkozy qui dit « Je ne veux surtout pas le savoir ».
Donc il y a aussi ça dans le livre, ce genre de poème, d'expression assez, assez directe, qui dit des choses fortes. Alors par contre, les poèmes les plus courts concernent l'un des événements qui a le plus marqué au moins la fin du XXe siècle, puisque nous connaissons, c'est le 11 septembre. Alors là, vous lui voyez que c'est très précis, c'est aussi précis peut-être que la frappe. Donc,
c'est le plus court des poèmes du livre. Ouais.
Donc là, vous consacrez trois ou quatre vers, je ne sais plus.
Trois vers, oui.
À ce...
Ça suffit.
Ouais, ça suffit. Voilà un petit peu. J'avais une chose que je voulais voir sur les. Alors, vous avez aussi la naissance du Roquefort dedans. Il y a un poème qui est très partie de l'histoire.
Ah, mais comment ?
Et comment ? Mesdames, vous avez le vote des femmes. Un poème sur le vote des femmes. Il y a aussi un poème, bon, je ne vais pas revenir sur la guerre, mais qui est un poème absolument superbe sur les monuments aux morts. Par ailleurs, dans le livre, bon, il y a beaucoup d'artistes cités, on le voyait tout à l'heure, de disciplines assez différentes. Il y a aussi des philosophes, et j'ai l'impression que vous avez une petite dent contre Derrida. Je ne suis pas du tout philosophe de formation, je pratique difficilement ce monde. Mais j'ai senti à travers deux ou trois allusions, une petite dent contre Derrida.
Parfois, pas toujours. Mmh. Son dernier livre est tout à fait remarquable. L'animal que donc je suis. Un très beau livre. Très beau titre et très beau livre. À mon avis, c'est le meilleur. Malheureusement, c'est son dernier, c'est dommage. Non, mais je n'ai pas lu tous les autres.
Mais il y en a beaucoup, hein.
Non, mais je trouve que dans Derrida, il y a un peu de complaisance dans l'écriture qui m'agace un peu, voilà. Et que ça, peut-être, ça, c'est moins sensible, notamment dans ce livre, qui est vraiment un livre sur la question de l'animal, que j'ai trouvé tout à fait extraordinaire.
Ensuite, il y a évidemment beaucoup de références littéraires. En tous les cas, vous nommez beaucoup de, aussi bien dans le rez-de-chaussée que dans les poèmes, vous nommez beaucoup d'auteurs. Alors, on croise Heine souvent, que moi j'aime bien lire, je dois le dire, qui n'est pas forcément très lu aujourd'hui en France. Il n'y a plus beaucoup de traductions. Il doit y avoir Aubier. Bon, moi, j'ai évidemment accès à la petite collection Poésie Gallimard. Et je trouve que c'est effectivement un poète qu'on ne met pas tout à fait à sa juste place.
Tout à fait d'accord.
Oui. Alors on retrouve aussi d'autres...
Et en particulier dans Heine, il y a un livre qui s'intitule, un recueil qui s'intitule Romancero, qui est un livre de poèmes d'histoire. Donc ça m'intéressait d'autant plus de retrouver Heine.
Il n'y a pas une traduction de Nerval de Romancero
Je ne sais pas, peut-être.
Je ne sais pas, je me pose la question, donc je n'ai pas la réponse.
Bon. Mais ça, c'est un livre que je pense qu'on le trouve dans Poésie Gallimard.
Oui, alors je dis une connerie, c'est pas grave.
Non. Enfin, Romancero, c'est en allemand, au départ. Oui. Même s'il a vécu effectivement en France beaucoup. Il a écrit des poèmes en français. Oui, bien sûr.
Alors, on retrouve d'autres poètes. Moi, j'étais très content de voir à un moment donné, évidemment, avec les Barbares, un des poètes qui m'est de très loin les plus chers au monde, qui est Cavafis. Donc ce petit clin d'œil m'a fait du bien, parce que je trouve que c'est un des poètes les plus admirables.
Certes.
On a toujours ses choix. Il y a quand même un poète qui vous est particulièrement cher, vous l'avez dit tout à l'heure, et il revient souvent, c'est Hugo.
Oui. Oui, oui, bien sûr. Mais en plus, sur l'histoire, c'était difficile à éviter. Mais en plus, oui, j'aime beaucoup la poésie de Hugo. Pour moi, le grand poète français, le plus grand poète français, c'est Hugues Armé. Alors, qu'est-ce que c'est Hugues Armé ? C'est une chimère. Hugues Armé naît en 1802 et il meurt en 1898. Ce siècle avait 2 ans et le suivant avait moins 2 ans. C'est Victor Hugo qui naît en 1802 et celui qui meurt en 1898, c'est Mallarmé. Et quand je dis Hugues Armé, c'est-à-dire qu'on ne peut pas imaginer deux poètes plus différents, plus écartés l'un de l'autre apparemment. Et en fait, je pense que c'est le même. C'est-à-dire que c'est un peu comme une chimère animale. Vous savez, c'est quand c'est une poule qui a des dents ou c'est un lion, une lionne qui a des ailes d'aigle. Eh bien voilà, Hugues Armé, pour moi, c'est le grand poète français parce que c'est celui qui est aux extrêmes. C'est les deux qui sont aux extrêmes, mais qui font la même chose, cela dit. Alors ça, j'ai écrit d'ailleurs une vie longue, qui est une vie de Hugues Armé, où je développe ça. On n'est pas obligé de... Je veux dire, on aime bien quand vous rencontrez un poète, dire « Alors, vous êtes hugolien ou vous êtes mallarméen ?» Alors moi, je dis « Non, moi, je suis Hugues Arméen. » Voilà. Parce que ce qui est formidable, c'est de... Quand on a lu, je sais pas, vous lisez une semaine Hugo, comme ça. Au bout d'une semaine, vous en aurez un peu marre, je comprends. À ce moment-là, vous allez vers Mallarmé. Là, c'est comme si vous avez bu du Saint-Émilion pendant 15 jours, et puis le verre de Badois, au bout d'un moment, il vous fera du bien. Vous ne pouvez pas boire du Saint-Émilion pendant tout le mois. Donc, il y a le jour de la Badois. Mais finalement, entre les deux, c'est toujours du liquide, c'est toujours à boire, c'est toujours... Bien sûr, Mallarmé, c'est Badois. Enfin, bon, Perrier, si vous préférez.
Mais il n'a pas dit qu'il ne l'aimait pas. Et donc il aime, s'il aime la Mallarmé, il aime la Badois.
Non, mais Mallarmé admire énormément Hugo. Et Mallarmé dit, mais au bout d'un moment, Mallarmé dit, mais qu'est-ce que je peux faire de plus que ça ? C'est pas possible. Donc il faut que je cherche ailleurs. À ce moment-là, il y a une recherche qui lui est tout à fait personnelle, mais qui est tributaire de... qui est forcément tributaire de Hugo. Alors ça m'intéresse beaucoup parce que c'est là que je trouve l'énergie inventive. Je crois qu'on la trouve dans un conflit. Et dans ce qu'on lit, on lit par conflit. C'est-à-dire que ça ne m'intéresse pas d'être, quand j'écris des romans, de dire « Non, mon modèle, c'est Flaubert et Balzac ne m'intéresse pas ». Ce qui serait, par exemple, la position d'un Robe Grillet qui défend ça pendant des livres, des livres, des livres théoriques. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le conflit entre les deux, c'est-à-dire de lire Balzac le lundi et Flaubert le mardi. Et c'est dans le rapport entre les deux que je trouve le terrain de mon invention. C'est pas dans le choix exclusif de l'un contre l'autre. Alors ça, je trouve que c'est une chose, moi, qui dirige mon travail beaucoup. De ce point de vue-là, souvent, on me reproche beaucoup d'être un peu éclectique.
Écoutez, c'est plutôt un compliment qu'on devrait vous faire, parce que opposer Balzac et Flaubert, on a le droit d'aimer Balzac et Flaubert, d'ailleurs.
Et oui, il faut
la comparaison me paraît presque un peu idiote, parce que il faut les aimer chacun pour ce qu'ils sont et surtout pour ce qu'ils écrivent. Absolument. Et je trouve ça un petit peu rudimentaire d'avoir ce genre d'approche à la littérature. Sur Mallarmé, il y a un poème de forme mallarméenne, je crois que c'est comme ça que vous l'exprimez, qui est consacré à Évariste Galois. Je me rappelais plus qui était Évariste Galois. Donc, grâce à vous, par ailleurs, j'ai fait
travail. C'est un mathématicien.
Ouais, maintenant je sais. Eh ben oui, mais on est plein d'inculture. Hein.
Moi, j'étais tellement inculte sur Évariste Galois que c'est un ami, Robert Rapilly, qui me dit, qui connaît bien mon travail, qui le suit depuis longtemps, et il me dit, lui-même est poète, il me dit, il faut absolument que tu fasses un poème sur Évariste Galois. Je lui dis, écoute, pourquoi pas, mais là, j'ai pas le temps. Si tu veux, je t'invite dans mon livre, c'est toi qui vas le faire. Ce qu'il a fait. Donc, ça s'appelle Poème invité.
Poème invité. Oui, c'est vrai quand le...
Et donc, c'est lui qui l'a écrit, voilà.
Et en le lisant, je sans avoir été à l'index, je me suis dit, ça me fait vraiment penser à Mallarmé. Donc c'était.
Oui, mais lui est un mallarméiste, alors il commence à être un peu hugolisé à force de me connaître, mais...
Voilà, je vois que le temps passe. C'est aussi un livre où il y a un hommage très marqué à Roubaud. Donc j'aimerais bien que vous lisiez, parce que bon, par rapport à ce très beau poème, le 16, où vous dites, vous parlez d'Ypsilon, j'aimerais bien que vous le lisiez, parce que je crois que c'est un texte, un poème important
pour votre parcours. Certes. Bah, il se trouve que je suis à l'Oulipo depuis 83. Que j'ai rencontré l'Oulipo en 78, en particulier en travaillant avec Jacques Roubaud au cours d'un séminaire, d'un stage. Mais je l'avais rencontré plutôt quand j'étais à l'université. Donc c'est ça que je raconte dans le poème. Alors évidemment, depuis 78, ça fait combien d'années ? Pas mal. Mon travail de poésie est en relation étroite avec celui de tous les autres membres de l'Oulipo, et en particulier de Jacques Roubaud, ce qui était évidemment une chance énorme de ma vie, c'est de voir travailler d'autres poètes, dont quelqu'un de la stature de Roubaud. À la librairie Maspero, sans doute, rue Saint-Séverin, je fais l'acquisition... en 1969, du premier grand livre de Jacques Roubaud, Signe d'appartenance. On disait alors Epsilon, ou mieux appartient à. J'entre donc en appartenance avec ces sonnets dont je n'ai jamais renié l'acte d'acquisition. Peu de temps après, dans le cours de Michel Deguy à Vincennes, Roubaud lui-même vient nous parler de l'étendue de son projet. Soudain, la poésie respire, signifie travail, mais le projet et la charrue devant les bœufs poussifs des sentiments complus. Vincennes, c'est alors l'université acquis des luttes. On apprend plus que ce qu'on peut. Il y a de la matière, des fenêtres. Qui n'apprend rien alors est bouché. Science, jeu, poésie, connaissance. C'est la nouvelle alliance et l'enthousiasme de l'esprit. Le blason roubaldien, chercher, rire et chanter, aimer encore aujourd'hui par l'esprit. Ces jours où de Roubaud j'ai fait la connaissance.
C'est très beau.
Alors en plus, là, pour écrire un sonnet sur parlant de Roubaud, il faut évidemment. Il y a un enjeu supplémentaire. Comme il a énormément travaillé sur la connaissance du sonnet depuis l'origine, c'est la personne au monde qui connaît mieux la forme du sonnet. Il fallait que j'invente quelque chose de neuf dans le sonnet pour parler de ça. Sinon, je n'aurais pas osé. Ça aurait été la honte de ma vie si je n'avais pas réussi. Donc, j'utilise un mode de rime qui, à ma connaissance et à la connaissance de Roubaud, n'a pas été fait auparavant. C'est-à-dire remplacer l'ordre de la rime par des répétitions de mots. C'est-à-dire quand vous avez le ABBA de la rime, d'habitude, là, c'est acquisition... appartenance, appartenance, acquisition. C'est-à-dire que c'est la répétition du mot lui-même qui remplace la rime, tout en gardant le même schéma alternatif. Voilà.
Et ce poème, que je trouve vraiment très beau, est suivi à côté d'un autre, c'est Naissance de la littérature. Je ne dis pas que vous la faites remonter à Pérec et Anthème, ça n'aurait pas de sens, mais enfin, il y a là aussi, c'est 34.
C'est page 34.
34, c'était juste après vous.
Oui, c'est aussi. Effectivement, ces deux poèmes, finalement, qui sont assez jumeaux. En plus, vous savez, c'est la fameuse phrase du philosophe allemand Adorno disant comment peut-on écrire des poèmes après Auschwitz ? Bon. Et il se trouve que quand j'ai découvert que, d'une certaine façon, Pérec avait répondu à cette question. J'ai eu envie d'en faire un poème, et je vous lis le poème. Pour la naissance de la littérature, tout écrivain propose une date, à compter de laquelle avancer, à compter de laquelle relire, en remontant le fleuve en arrière. C'est 1963 pour Georges Perec, quand il crédite le livre de Robert Antelme, « L'espèce humaine », d'une confiance illimitée dans les mots, dans les phrases, lorsqu'il s'agit de vouloir comprendre et de n'abdiquer de rien du côté du disciple et de l'histoire. 1963, l'espèce humaine a déjà 16 ans. Et la disparition, moins 6. Serons-nous des écrivains, se demande Pérec, avant les choses ? La réponse est dans le dernier mot de l'espèce humaine. Elle est en allemand dans le texte. Ja.
C'est vrai que je trouvais que c'est le point.
Et effectivement, le dernier mot du livre de Robert Antelme, hein, qui est le grand livre sur la Shoah, c'est le dernier mot est un mot allemand en français, dans le texte français, ja. Ce qui est assez étrange parce que ça. Précisément, la réponse. Pour moi, c'est la réponse à l'interrogation d'Adorno, dont on parlait tout à l'heure.
Et on vient de
Antelme répond et Pérec répond.
On vient de rééditer un petit texte d'Antelme sur la, je crois, c'est la vengeance, qui est absolument super avec une préface de Jean-Luc Nancy, et qui est un texte absolument, absolument superbe. Voilà, donc on a essayé de balayer un petit peu le livre. Il y a avant de poser des questions, à la fin, dans l'avant-dernier poème, il y a un poème de Bandy qui s'appelle Une chaîne d'exactitude. Et il y a un passage, je ne sais pas si 226, qui est très beau, je trouve aussi. Vous allez dire, je dis toujours c'est très beau, mais c'est ce que je pense, comme ça.
C'est vrai que voilà, c'est de la chance aujourd'hui.
Voilà, et celui-là, j'aimerais beaucoup que vous me le lisiez, que vous nous le lisiez. Parce que je trouve qu'il y a une.
Ben, en plus, c'est un poème qu'il faut lire dans une librairie, je vous dirai pourquoi après. Toute son enfance à lui, poète, n'a été qu'une longue rêverie mêlée d'études exactes. C'est cette enfance qui a fait son esprit ce qu'il est. Il n'y a d'ailleurs aucune incompatibilité entre l'exact et le poétique. Le nombre est dans l'art comme dans la science qui regarde le plus grand honneur du poète d'accomplir juste ce qu'il a projeté de faire dans sa mise en scène spirituelle exacte, et l'écritoire nourrit avec diligence la plume, fertile en compte exact. Seul astre exact, un livre. Alors c'est un poème de Bandy. Là c'est un poème qui vole à plusieurs auteurs. D'abord à Hugo, ensuite à Baudelaire, ensuite à Mallarmé, ensuite à Queneau et ensuite à Michel Grangot, membre de l'Oulipo aujourd'hui. Et il se trouve que Michel Grangot, à un moment donné où on devait faire un poème pour un grand mur architectural de la bibliothèque de l'Université de Saint-Denis, on avait rêvé autour de l'énoncé « L'avenir est au lecteur ». Et Michel Grangot avait trouvé comme anagramme, donc les mêmes lettres de l'énoncé dans un ordre différent, « L'avenir est au lecteur », anagramme. Seul astre exact, un livre. Donc toutes les Hugo, Baudelaire, Mallarmé, Queneau, Michel Grangot, le terme exact lié à la poésie apparaît sous les cinq plumes. Donc là, en écrivant le poème, je les ai simplement raboutés pour faire un poème de l'exactitude qui, pour moi, est une valeur de la poésie importante, très importante.
C'est un cambriolage très réussi ou un vol très réussi. Voilà, ça fait pour une heure que l'on bavarde. On va peut-être arrêter là. Parce que ça... Je vous remercie beaucoup.
Merci beaucoup de votre présence. Merci.